Sécurité Santé avec Sounou Assurance en Guinée. Sounou Assurance Vie Guinée qui vous protège ainsi que vos proches et Sounou Assurance IARD Guinée qui préserve vos biens. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Fréquente, chronique, sévère, mal ou bien contrôlée, tous ces termes s'appliquent à la maladie respiratoire qui nous intéresse aujourd'hui dans Priorité Santé, l'asthme. Essoufflement, oppression, sifflement, toux persistante. Une maladie dont le nom est plutôt bien connu du grand public, souvent associé à l'image d'un patient qui tente de se soulager en introduisant dans sa bouche une petite pompe, un petit appareil en plastique qui va diffuser un médicament, une suspension qui vise à soulager rapidement. Mais prendre en charge l'asthme, ce n'est pas simplement agir au moment de la crise. C'est aussi essayer d'identifier les facteurs déclenchants, prévenir les symptômes, savoir évaluer son état, comprendre aussi comment les traitements agissent et éviter certaines habitudes néfastes. Une maladie fréquente dont l'impact ne se limite pas seulement à la santé respiratoire, car celles et ceux qui sont concernés par un asthme sévère témoignent des conséquences sur leur qualité de vie en général. Activité à journée, projets reportés, certaines émotions amplifiées, contrôler son asthme, c'est agir au long cours, bénéficier d'un suivi régulier. Et c'est une question de santé publique, dans la mesure où l'asthme concerne sur la planète 340 millions de personnes, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Et nous aborderons bien sûr au cours de cette émission les questions liées au Covid-19, alors que la planète reste confrontée à la pandémie de cette infection virale dont les complications respiratoires peuvent se révéler particulièrement sévères. Comprendre donc l'asthme, mieux le prendre en charge en ligne avec nous, professeur Bruno Housset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fondation du Souffle, professeur émérite à la faculté de médecine de Créteil en région parisienne. Et nous retrouverons tout à l'heure en ligne du Togo le docteur Stéphane Adam Bounou, pneumologue spécialiste en pathologie respiratoire liée au sommeil au CHU de Lomé. En fin d'émission, on va parler de l'épidémie de rougeole en République démocratique du Congo avec Birgit Nicolai, épidémiologiste à Épicentre, la branche de Médecins sans frontières dédiée à l'épidémiologie et à la recherche.
Priorité santé sur RFI.
Alors professeur Housset, pour bien comprendre cette maladie respiratoire, l'asthme, peut-être commencer par en expliquer le processus. Hein. Quelle partie de notre appareil respiratoire, des poumons, est affectée en cas de crise?
En cas de crise, on a une obstruction des bronches, des bronches qui vont donner le sifflement qu'on perçoit quand les gens font une crise d'asthme. C'est un essoufflement qui s'accompagne de sifflement intrathoraciques parce qu'il y a un rétrécissement des bronches. Et le mécanisme de rétrécissement de ces bronches, il y en a au moins trois, c'est l'édème de la muqueuse, ça gonfle si vous voulez, et puis il y a une hypersécrétion, des sécrétions qui peuvent boucher en partie les bronches. Et enfin, le troisième mécanisme, c'est une contraction des muscles qui sont autour des bronches et qui peuvent faire varier le calibre. Donc s'ils se contractent, ça diminue le calibre des bronches et ça aboutit à cet essoufflement et ces sifflements.
Alors quand on a du mal à respirer, hein, c'est logique, on se sent un petit peu opprimé, on se sent comprimé et voire même on peut se sentir angoissé. Est-ce qu'il y a une forte aussi dimension, on va dire, psychologique? Mais attention, hein, je ne dis pas du tout que c'est inventé, mais une forte dimension psychologique au cours de la crise d'asthme?
Effectivement, c'est extrêmement angoissant de faire une crise d'asthme. Donc il y a deux choses. D'une part, le fait d'être stressé, par exemple, qui peut avoir un impact sur la survenue d'une crise. Et d'autre part, la crise elle-même qui est très angoissante.
Alors, maladie inflammatoire, hein, ça peut conduire à l'hospitalisation, hein, professeur Bruno Housset. C'est d'ailleurs un facteur, un motif majeur d'hospitalisation. Est-ce que l'on peut déterminer dans quel cas, justement, il y a urgence, il ne faut pas rester à la maison, pas forcément se contenter des médicaments qu'on a sous la main et penser à aller à l'hôpital?
Une crise qui est perçue comme inhabituelle par le patient, c'est quelque chose qui n'est pas normal et qui ne cède pas au traitement habituel. Vous prenez deux, trois bouffées de bronchodilatateur et ça ne cède pas à ce traitement, puis ça perdure encore. Il ne faut pas attendre, il faut aller effectivement rapidement aux urgences ou aller voir son médecin, mais c'est quelque chose qui doit être immédiat. Tous les ans, il y a des patients asthmatiques qui décèdent parce que l'intervention n'a pas été suffisamment rapide.
Et j'ai vu 900 morts par an au niveau d'un pays comme la France. C'est quand même quelque chose de très important. On va reparler de tout à l'heure, bien sûr, de la problématique de l'asthme dans le contexte de la pandémie de Covid. Il y a des questions Facebook d'auditeurs, professeur Housset, par exemple. Il y a Benjamin de Kinshasa qui demande, est-ce que la pollution de l'air, est-ce que cette pollution, c'est un facteur aggravant de l'asthme ?
Alors, il y a effectivement, la pollution est un facteur aggravant de l'asthme. Mais quand on parle de pollution, en fait, il y a différents éléments. C'est une soupe, la pollution. Mmh. Et dans la pollution, vous avez des particules que l'on classe en fonction de leur diamètre. Et donc, on a étudié, par exemple, les PM qui s'appellent PM2.5, de moins de 2,5 microns de diamètre. Et on a très bien montré qu'il y avait une augmentation, par exemple, des consultations aux urgences pour asthme en fonction de la pollution au PM2.5. Plus ça monte, plus les enfants vont venir consulter aux urgences. Ce sont des enfants qui étaient étudiés, c'était des consultations pédiatriques. Et j'aimerais insister sur le fait que les enfants paient un lourd tribut à l'asthme. C'est plus fréquent chez l'enfant.
Avec justement une question, excusez-moi professeur, qui concerne les enfants et les tout-petits en particulier. C'est toujours à Kinshasa, Serge qui pose, qui vous demande comment reconnaître une crise d'asthme, justement la distinguer d'une bronchiolite aiguë chez le nourrisson.
Ah, chez le nourrisson, c'est compliqué, c'est difficile de faire la part des choses. Et en fait, on définit l'asthme du nourrisson sur la répétition de ces épisodes respiratoires sifflants qu'on peut assimiler à des bronchiolites. Mais plus de 3 bronchiolites, on peut penser que c'est un asthme du nourrisson. Il faut savoir que le plus souvent, ça s'arrange progressivement à l'âge de 3 ans.
Alors justement, pourquoi les tout-petits sont particulièrement exposés à cette maladie respiratoire ? La cause, il faut la regarder du côté de leur autonomie. Pourquoi ? Leur anatomie ?
Alors il y a plusieurs éléments dans la réponse. Le premier, c'est que vous savez qu'il y a on sait que l'asthme est favorisé par un mode de vie un peu particulier. Mmh. Et donc il y a eu une étude qui a été faite chez les Amish et qui a montré qu'en fait le fait d'exposer sur une courte période, il y a une fenêtre très précise au début de la vie où en fait le fait d'être exposé à des dérivés bactériens ou à des allergènes peut diminuer la fréquence de l'asthme. Mmh. Donc ça c'est la théorie hygiéniste. Et puis d'autre part, les enfants, ils font souvent des infections virales, notamment au virus respiratoire syncytial, mais aussi à des rhinovirus, qui peuvent favoriser ces réactions, en fait, au niveau bronchique, ces bronchiolites.
Alors, on va parler du diagnostic, du suivi, tout de suite, reportage. Et c'est en compagnie d'Ophélie Lassen que nous nous rendons dans le 11e arrondissement de Paris. Sur place, Anaëlle, une jeune patiente asthmatique, a rendez-vous au cabinet médical spécialisé de l'enfant et de l'adolescent. Et pour cette consultation de contrôle chez sa pneumologue, sa mère l'accompagne.
Je m'appelle Anaëlle et j'ai 14 ans et je suis asthmatique.
Madame, vous êtes la maman d'Anaëlle.
Oui.
À quel âge est-ce qu'elle a été diagnostiquée asthmatique ?
À l'âge de 6 ans.
Et donc, vous, quels sont les premiers signes qui vous ont alerté à ce moment-là ?
Alors, l'essoufflement, quand elle montait à l'effort, quand elle riait aussi. Quand son essoufflement s'est accentué, donc je l'ai emmenée chez un pneumologue, donc un médecin spécialisé dans les affections respiratoires. Et de là, le médecin a diagnostiqué un asthme sévère et l'a traité avec des corticoïdes, sérétides et ventoline.
Et toi, Anaëlle, du coup, avec ce traitement, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ?
Là, ça va mieux. Le soir, souvent, j'ai du mal à respirer. Souvent, je fais un peak flow pour voir mon souffle. Un peak flow, c'est un tube où tu dois souffler dedans. Et il y a des graduations qui vont de 150 à 80.
Ça mesure ton souffle.
Voilà.
Et est-ce que toi, au quotidien, il y a des choses que tu t'empêches de faire parce que tu as de l'asthme ?
Courir ou faire du sport. Je ne peux pas tenir trop longtemps.
Première chose, est-ce que tu peux me dire si depuis qu'on s'est vu, tu as été hospitalisée à cause de ton asthme ?
Non.
Est-ce que tu as besoin de passer aux urgences à cause de l'asthme ?
Non.
Est-ce que tu as été gênée à cause de ton asthme ?
Oui, la nuit.
La nuit.
Je m'appelle Valentine Marchac, je suis pneumopédiatre.
Donc pour faire le diagnostic d'asthme, on a déjà le fait qu'il y ait au moins 3 épisodes qui sifflent, ou nous on les entend siffler avec les stéthoscopes. Et puis dès qu'il commence à grandir un peu, on peut s'aider des mesures du souffle qu'elle a faites, et où on voit effectivement s'il y a une obstruction ou pas. Et les mesures du souffle, elles sont importantes parce que c'est quelque chose d'objectif. Et on sait que l'asthme, en fait, on parle de crise d'asthme, mais l'inflammation, elle est là au quotidien. Et donc, même entre les crises, on essaye que les fonctions respiratoires, le souffle soit parfait. Et que l'enfant, il ne se rend pas compte, en fait, quand le souffle n'est pas parfait. Et donc, c'est vraiment sur la machine. Et nous non plus, à l'auscultation, donc c'est vraiment sur les mesures du souffle qu'on se rend compte si l'asthme est bien contrôlé ou pas.
Donc là, docteur Marchak, on arrive dans une autre pièce, à côté de votre cabinet.
Dans lequel il y a la machine pour faire souffler, qui s'appelle un plétismographe.
Donc c'est une sorte de cabine de téléphonique en plexiglas transparente. Et donc on voit qu'il y a un siège à l'intérieur et puis une sorte de tube avec un embout. Et alors ça sert à quoi exactement?
Tu dois souffler dans le tube et l'air, ça va s'enregistrer sur l'ordinateur et ça va dire si ton souffle est bon ou s'il faut une amélioration.
Et vas-y. Longtemps. Et inspire. Super, bravo. On peut l'enlever. On va très très bien. Comme tu as des très bonnes fonctions respiratoires, moi j'essaierais bien de baisser un peu. Comme ça fait longtemps que tu n'as pas eu vraiment les symptômes typiques d'asthme.
Est-ce que dans le cas d'Anaëlle, donc, le traitement a permis de diminuer la fréquence des symptômes?
Oui, parce que là, ce qu'elle décrit, c'est justement c'est plus des bronchites, des nez bouchés que vraiment des crises d'asthme. Petite, elle passait régulièrement aux urgences pour faire des nébulisations. Il y a des moments où elle a été obligée d'être sous nébulisation en fait, à la maison aussi, pendant quelques mois, le temps que son état s'améliore. Donc oui, clairement, elle a une qualité de vie qui est très bonne. Est-ce que tu peux me rappeler à quoi ça sert le CRCID et à quoi ça sert la ventoline?
La ventoline, c'est en cas d'urgence. Ça ouvre tes bronches. Quand tu fais une crise, les bronches rétrécissent, donc tu prends de la ventoline.
Ouais. Vous avez repris cette planche pour vérifier qu'elle comprenait bien le rôle de la ventoline, etc. Est-ce que c'est important de vérifier qu'à chaque âge, elle comprend bien sa maladie et le traitement?
Alors moi, je pense, c'est ma croyance, que quand on sait à quoi ça sert, on le prend mieux. Du coup, j'explique toujours, j'explique aux parents, et je me rends compte que les choses vont vite, ils ont beaucoup d'informations en consultation et que c'est pas forcément intégré. Donc voilà, on essaie régulièrement de revoir avec eux, voir qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ont retenu, et puis de leur dire à quoi ça sert. Très bien, et bonne journée.
Mais merci. Au revoir, docteur
Marchak. Au revoir, Anaëlle, bravo.
Reportage de Philippe Lassane avec peut-être ce terme, professeur Housset, qui mérite une petite explication. La nébulisation, de quoi s'agit-il?
C'est un appareil qui va vous permettre de créer un aérosol avec des produits qui peuvent être le plus souvent des bronchodilatateurs, et on peut y associer éventuellement des corticoïdes. Et donc ça permet de respirer dans un masque et donc de ne pas faire un effort, vous savez, où il faut coordonner l'inspiration et puis presser sur, par exemple, un spray doseur, un aérosol doseur.
Alors, quelque chose d'essentiel abordé au cours de ce reportage, les explications, comprendre son traitement, professeur Housset, pour optimiser l'observance, j'imagine que vous partagez ce point de vue.
Complètement, c'est l'éducation thérapeutique, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, est absolument essentiel. Et il y a des écoles de l'asthme, des ateliers du souffle qui existent en France et qui permettent de faire passer cette compréhension de la maladie et l'importance aussi des plans d'action. Vous savez, c'est qu'on donne un plan écrit qui dit quelle est la conduite à tenir dans telle ou telle circonstance. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est les critères de contrôle de l'asthme qui ont été posés, en fait, par nos pédiatres. Est-ce que tenez la nuit? Est-ce que vous prenez souvent des aérosols doseurs? C'est des éléments importants.
Alors on va poursuivre cet échange dans quelques minutes, professeur Housset. Juste après, Sima Funk avec ce titre Koun Koun Pra. On va retrouver notamment les questions des auditeurs et on partira aussi pour le Togo.
Vamos a ripiano con lo lindo de la vida. Va a gozar sin drama que mañana no se sabe nada. Déjame llenarte de alegría. Esa cuerpa. Ven y menea con el
Kun Kun Pra.
¿Qué es lo que dice?
Kun Kun Pra.
¿Eso qué cosa es?
Kun Kun Pra.
Espérate, espérate.
Kun Kun Pra.
Pra.
Kun Kun Pra.
Hasta abajo.
Kun Kun Pra.
Hasta abajo.
Kun Kun Pra.
Hasta abajo.
Kun Kun Pra.
Ahora baila.
Calentando,
niño.
Tú lo que lleves movimiento. minuto. Aprieta sin miedo y vamos pa' piso. Sí, así. Un movimiento coordinado. Dale ahí. Tienes el tráfico alterado. Tu cara tan feliz me tiene colorado. Olvídate de todo, hay que ripiarse con el
cumbra.
¿Qué es lo que dice?
Cumbra.
¿Eso qué cosa es?
Priorité santé sur RFI, on continue de parler de l'asthme, toujours en compagnie du professeur Bruno Housset, président de la Fondation du Souffle. Et ce contexte sanitaire avec, on le sait, hein, depuis plus d'un an, pas mal de questions pour notre santé à toutes et à tous. Et forcément, les craintes particulières des personnes concernées par cette maladie respiratoire au cœur de l'émission du jour. Est-ce que, professeur Housset, les patients asthmatiques et leur entourage ont fait part à leurs médecins, à ceux qui suivent leur asthme, ont fait part d'inquiétudes spécifiques?
Oui, ils sont inquiets, bien sûr. Tous ceux qui souffrent de maladies chroniques sont inquiets devant cette épidémie Covid. Mais il faut savoir que les asthmatiques ne sont pas en surreprésentation dans les réanimations. Donc, il n'y a pas de risque supplémentaire de se retrouver en réanimation. On est quand même exposé à ce risque, indiscutablement. Alors, il y a un bémol quand même, c'est les asthmes sévères. Vous savez que les asthmes sévères, c'est 5 à 10% des sujets asthmatiques. Et ceux-là sont peut-être plus à risque de faire une forme grave de Covid. Mais le point qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux études faites en Angleterre et qui suggèrent qu'avec l'épidémie de Covid, on a une diminution des consultations, soit auprès des médecins généralistes, soit aux urgences pour crise d'asthme. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'on peut se demander pourquoi. Et donc, l'important, il y a au moins trois éléments de réponse. Le premier, ce sont les gestes barrières. Et on sait que le fait, et c'est extrêmement important de les maintenir, et quand bien même vous seriez vacciné, il faut maintenir le port du masque, le lavage des mains, la distanciation sociale. Ça, c'est vraiment quelque chose de clé pour limiter la dissémination de la maladie. Donc ça peut expliquer le fait qu'il y ait une diminution des infections par des virus respiratoires, même autres que le Covid. On parle d'autres virus qui peuvent éventuellement donner des crises d'asthme. Et donc ça peut limiter. On sait qu'il y a moins de grippe, par exemple, cette année. Mm-hmm. Et donc ça, c'est un élément important. Le deuxième point, c'est que il y a peut-être une meilleure observance du traitement, parce que justement, il y a une inquiétude et les gens font plus attention et prennent mieux leur traitement. Et le troisième point, c'est qu'il y a une diminution de la pollution. Alors, j'évoquais tout à l'heure la pollution par les PM2.5, mais on sait qu'il y a une diminution également de la pollution par les dérivés oxygénés de l'azote, qui sont aussi des substances pro-inflammatoires qui peuvent favoriser des crises d'asthme. Donc, ces éléments combinés entre eux peuvent éventuellement expliquer qu'il y ait moins de consultations aux urgences pour asthme. Par ailleurs, ces auteurs n'ont pas montré de différence sur la mortalité par asthme.
Alors, d'autres questions tout de suite. On va partir pour le Sénégal.
RFI à Saint-Louis, 99.7 FM.
Et c'est donc en ligne de Saint-Louis qu'on retrouve Ali Matou. Bonjour.
Bonjour.
Alors Ali Matou, vous êtes asthmatique personnellement. À quel âge est-ce que vous avez été diagnostiquée?
Oui, bonjour. C'est Ali Matou dans la région de Saint-Louis. Bon, je suis asthmatique et on l'a détectée depuis que j'ai 14 ans.
Aujourd'hui, vous avez 29 ans. Est-ce que vous prenez encore un traitement?
Non, je ne suis pas en traitement. Je prends des médicaments.
Alors, quels médicaments prenez-vous?
Je prends des médicaments contre les éternuements et contre le rhume, comme les Actifed, comme les Febrilex et les autres, concernant le rhume.
Ça veut dire que ce sont des médicaments que vous prenez tous les jours ou que vous prenez simplement quand vous avez des crises ou que vous ne vous sentez pas très bien?
En fait, au début, je les prenais tous les jours. Mm-hmm. Mais bon, après l'avis d'un médecin, il m'a dit que je peux être dépendante de ces comprimés. Du coup, j'ai un peu diminué la dépendance, donc je le prends de temps en temps.
Est-ce que dans votre famille, Ali Matou, il y a d'autres personnes qui sont concernées par l'asthme?
Oui, dans ma famille, presque. Je suis dans une famille asthmatique. Mm-hmm. Mon père est asthmatique. J'ai des frères et des sœurs aussi qui ont cette maladie.
Et vos, et les gens de votre famille, votre père notamment, est-ce qu'il prend un traitement?
Oui, mon père le prend. Depuis, alors lui-même, son cas est plus sévère parce que lui, il dépend d'une pompe qu'il prend presque tous les soirs. Hein. Mm. Tous les soirs, il la prend.
J'imagine que c'est une pompe, un bronchodilatateur type Ventoline. Vous, est-ce que vous avez repéré des choses dans votre quotidien, dans votre vie, qui peuvent déclencher des problèmes de respiration ou des crises d'asthme même?
Oui, effectivement, c'est ça. À chaque fois que je respire l'odeur du parfum un peu trop fort, ou bien des détergents, ou bien des allergènes, là, j'ai un peu de crise. Ça me met mal à l'aise et ça bloque la respiration.
Alors, Alimatou, donc, ces odeurs fortes qui vous gênent, on va dire même qui peuvent déclencher certaines crises, est-ce que vous avez des questions précises à poser à notre invité, au professeur Bruno Housset?
Oui, j'aimerais savoir si cette maladie que j'ai, c'est-à-dire l'asthme, est-ce que je peux le transmettre à mon enfant ou bien comme je l'ai eu? Parce que j'ai entendu dire que cette maladie est héréditaire. Donc, puisque je l'ai eu de mon père, est-ce que je peux le transmettre à mon enfant? La deuxième question est que, est-ce que je ne peux pas prendre des médicaments, c'est-à-dire une remède contre l'asthme?
Aujourd'hui,
pour diminuer un peu.
Pour diminuer cet asthme. Alors, première question, sur l'hérédité, professeur Bruno Housset, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Alimatou?
On pourrait lui répondre qu'il y a un facteur familial indiscutable dans l'asthme et que c'est un facteur de risque pour la décellence. Donc si Alimatou a des enfants, elle va avoir un risque éventuellement qu'il puisse faire de l'asthme. Mais ce n'est pas une transmission génétique qui est clairement identifiée comme certaines maladies. On sait que c'est un facteur de risque et ça va dépendre ensuite des interactions avec l'environnement, comment ça se passe. Donc ce n'est pas, en tout cas ce n'est pas certain du tout qu'elle puisse avoir un enfant asthmatique.
Alimatou, est-ce que vous faites encore des crises d'asthme aujourd'hui? Et quand vous faites une crise, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous réagissez?
En fait, ça fait un moment que je n'ai pas eu de crise.
Oui.
D'habitude, je l'ai pendant la saison des pluies ou bien pendant quand il y a du vent ou bien de la poussière, d'habitude. Maintenant, quand je l'ai la nuit, je m'étouffe, je ne peux pas respirer correctement. C'est comme s'il y a quelque chose qui est bloqué dans ma poitrine et que je ne me sens pas bien. Je fais des petits sauts comme ça.
Des sifflements.
Et que je respire mal.
Et vous avez quelque chose pour vous débloquer en urgence ou vous attendez que ça passe?
Non, d'habitude, quand je prends des médicaments, ça passe un peu.
Ouais.
Que quand je me réveille, c'est comme si je n'ai jamais eu de crise.
Professeur Bruno Housset, en tout cas, dans ce que l'on entend au travers du témoignage d'Alimatou, est-ce que l'on doit penser à une allergie ou pas vraiment?
On doit penser à une allergie. En tout cas, il y a plusieurs facteurs d'agression qui peuvent être identifiés. La saison des pluies, il peut y avoir des moisissures, par exemple, qui se développent avec l'humidité. C'est un facteur d'agression de la muqueuse bronchique. Et puis, bien sûr, la poussière, les acariens, quand il y a du vent et que ça soulève de la poussière. Et puis, Alimatou signale qu'elle est gênée la nuit. Et donc, c'est probablement chez elle qu'il faut éventuellement rechercher un agresseur du souffle, entre guillemets, qui peut être... parce que, par exemple, l'encens ou bien les fumées, c'est plus une pollution qu'un facteur allergique. Donc ça, ce sont des éléments. L'autre élément important, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure la pneumopédiatre, le traitement de fond est vraiment essentiel. Même quand on n'est pas en crise, il peut y avoir justification à prendre un traitement de fond parce qu'il existe une inflammation bronchique. Et la révolution du traitement de l'asthme, ça a été les corticoïdes inhalés en spray et donc ou en poudre. Et donc c'est vraiment le point important et c'est le traitement de fond. Et l'observance est difficile parce que prendre un traitement tous les jours, c'est quelque chose qui est astreignant, contraignant. Et donc, surtout quand on est bien, quand on a l'impression que tout va bien. Mmh. Et donc c'est ça la difficulté et c'est ça l'intérêt de bien comprendre les mécanismes de la maladie pour arriver à prendre les médicaments. On a fait des progrès, puisque maintenant, on peut avoir des médicaments qu'on prend une seule fois par jour. Avant, il fallait le prendre au minimum matin et soir, et maintenant, une seule fois par jour suffit.
En tout cas, on peut conseiller à Alimatou d'aller consulter un médecin, justement, pour parler de ce traitement de fond. On remercie infiniment Alimatou pour son témoignage. On part maintenant pour la Mauritanie, pour Nouakchott, où on retrouve Brahima. Brahima, bonjour.
Bonjour, les filles, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, à vous, Brahima, à quand remonte ce diagnostic de votre asthme?
Mon âge, je dirais bien que j'étais petit.
Mmh. Vous étiez enfant.
Depuis enfant. Je pense que mon asthme, c'est un asthme héréditaire.
Et aujourd'hui,
est-ce que vous... Ça vient de mon grand-père.
De votre grand-père. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des crises fréquentes?
Avant, je pouvais rester 5 ans, 6 ans sans avoir de crise d'asthme. Maintenant que j'ai changé de travail, je travaille au marché. Je suis tout le temps confronté aux poussières et aux mauvaises odeurs. J'ai tout le temps des crises d'asthme.
Et est-ce que vous prenez un traitement?
Oui, actuellement, je prends un traitement.
Lequel?
Je prends buto-asthme et Dilatran.
Et est-ce que cela vous soulage? Et est-ce que vous avez changé aussi quelque chose dans votre habitude de vie pour essayer de mieux respirer?
Au début, lorsque je prenais le médicament, ça ne m'a pas fait beaucoup d'effet. Mais lorsque j'ai laissé la cigarette et j'ai commencé à faire des entraînements, je m'entraîne beaucoup, je vis que ça a beaucoup diminué. Même lorsque j'ai eu des crises d'asthme, c'est moins douloureux qu'avant.
Et vous avez arrêté de fumer, pourquoi, Brahima? C'est un médecin qui vous l'a conseillé? Ou c'est vous, un petit peu par raison, qui avez dit « fumer, c'est pas bon pour les poumons, ça tout le monde le sait, il faut que j'applique cette règle à moi-même ».
Oui, c'est parce que le docteur m'a dit qu'un asthmatique ne doit jamais fumer.
Mmh.
Donc, j'ai vu que j'ai tout le temps des crises d'asthme, j'ai commencé à avoir peur. Donc, j'ai dit là, il faut que j'arrête.
Ça a été difficile d'arrêter de fumer?
Ça a été difficile, mais ça fait 2 ans que j'ai arrêté.
Bravo, hein. Bravo, bro. Vraiment, Brahima, s'il y avait une mesure, et je suis certaine que le professeur Bruno Housset va pas me démentir, c'était bien cette mesure-là à prendre pour votre santé, hein. Professeur Housset, on n'a pas parlé du tabac, mais bien évidemment, absolument éviter de fumer.
Majeur. Oui, c'est un agresseur majeur des bronches et du poumon avec plein de maladies qui peuvent être associées au tabagisme. Donc, franchement, bravo à Brahima d'avoir arrêté de fumer. J'encourage tous ceux qui fument à arrêter. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a quelques éléments dans ce que nous a dit Brahima qui me paraissent intéressants à relever. Il a parlé du sport. Mmh. Et je pense que c'est extrêmement important de promouvoir l'activité physique chez les sujets asthmatiques. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu un livre blanc qui a été produit fin 2020 sur l'asthme et l'asthme sévère par différentes structures pneumologiques et dans lequel on reprend 33 propositions et notamment des propositions sur la promotion de l'activité physique et notamment à l'école, qui est un élément important.
Il faut adapter, professeur Housset, c'est très important, cette activité physique et non pas y renoncer comme cela pouvait se faire il y a encore quelques années avec des dispenses de sport pour les enfants asthmatiques notamment.
Ah oui, au contraire, il faut faire du sport. Quand je disais tout à l'heure, on entendait tout à l'heure le témoignage, il faut prendre éventuellement un bronchodilatateur de courte durée d'action avant de faire un effort, et ça peut permettre de limiter la gêne qu'on peut avoir à l'exercice. Et donc c'est extrêmement important de former à l'école les éducateurs, les professeurs d'éducation physique, pour qu'ils sachent prendre en charge des enfants asthmatiques. C'est une des propositions qu'on avait faites.
Alors, Brahima, on va vous remercier infiniment pour votre témoignage et on va sans plus tarder partir pour le Togo pour avoir un autre éclairage sur cette maladie inflammatoire.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
Et on a le plaisir de vous retrouver, docteur Stéphane Adambounou, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes pneumologue spécialiste en pathologie respiratoire liée au sommeil au CHU de Lomé. Docteur, on l'a dit, l'asthme, maladie fréquente. Est-ce que vous avez des chiffres pour votre pays, le Togo?
Oui, récemment, le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles a fait des statistiques. Et on peut dire que la prévalence de l'asthme au Togo est estimée autour de 4 à 5 %.
Est-ce qu'on peut dire que cette maladie est plutôt bien connue par la population, par le grand public? Le mot asthme, ça parle aux gens, à Lomé par exemple, dans la rue?
Alors oui, il faut dire que c'est une maladie qui est bien connue par nos populations, tout au moins dans ses manifestations classiques. D'ailleurs, dans une des langues locales, l'asthme est appelé bonrin, ce qui veut dire la maladie qui fait siffler quand on respire. Mmh. Donc la maladie est bien connue. Mais c'est vrai qu'il y a aussi de fausses idées ancrées dans l'esprit de la population.
Par exemple?
Mais par exemple, certaines pensent par exemple que l'asthme n'affecte que les enfants. C'est une maladie qui est exclusivement infantile, alors que l'asthme peut survenir à tout moment. Certains pensent, par exemple, que pour le traitement de l'asthme, il suffit de prendre de l'eau du climatiseur pour en guérir, alors que c'est complètement une idée qui est fausse. Mmh. Et d'autres pensent également que l'asthme, c'est une maladie qui est ponctuelle. Donc, le caractère chronique de la maladie asthmatique n'est pas accepté par la population.
Alors, lutter contre les idées reçues, également consulter, est-ce que c'est quelque chose que les gens font facilement d'aller voir un médecin pour parler de ces problèmes respiratoires?
Alors, je vais dire oui et non. Oui, parce que quand même, en tout cas pour la population qui se trouve en milieu urbain, et consulte assez fréquemment pour des manifestations évocatrices d'asthme, qui nous permet après de poser le diagnostic. Maintenant, après, la population rurale va avoir un circuit tout à fait différent. On va d'abord se tourner vers la médecine traditionnelle.
Oui.
C'est en cas d'échec qu'ils vont se retrouver après peut-être un médecin, un infirmier, qui, une fois dépassé, va envoyer le patient peut-être un médecin généraliste. Et c'est lorsque on arrive à des stades assez, assez graves que le malade va se retrouver en spécialité.
En spécialité avec, on peut le dire, un déficit de pneumologues pour un pays comme le Togo. Hein, il n'y en a pas suffisamment.
Oui, nous ne sommes que 8 pour tout le pays. Mmh. On va dire que nous sommes 6 à Lomé et 2 à l'intérieur. Bon, comme le dit souvent nos patrons, la pneumologie, c'est le parent pauvre de la médecine. Hein. Mmh. C'est pas une spécialité aussi prestigieuse que les autres, ce qui fait que les médecins ne s'y intéressent pas trop.
Alors qu'on le comprend bien en vous entendant et en entendant cette émission, les besoins sont immenses. Tout à l'heure, Brahima, auditeur de Nouakchott, parlait de la poussière sur son lieu de travail. Est-ce que vous, il y a d'autres facteurs dans l'environnement, on va dire peut-être des facteurs spécifiques qui pourraient favoriser les crises?
Oui, alors la poussière comme facteur déclenchant, c'est une réalité qui est commune à tous les pays de l'Afrique subsaharienne. La particularité, peut-être au Togo, ça va être d'autres culinaires, parce que on a identifié la consommation de gombos. Mmh. Le gombos, c'est une légumineuse, ou de les semoules de manioc dans la survenue des crises d'asthme.
Donc, il faut aussi parfois surveiller son alimentation, essayer de repérer ce qui, dans l'assiette, peut provoquer le déclenchement d'une résistance respiratoire. On va aborder la question de la sensibilisation, de la prise en charge. D'abord, docteur, un auditeur de chez vous, justement de Lomé, c'est Alexis. Alexis, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous, Alexis, on va dire des dizaines d'années d'asthme derrière vous depuis l'enfance, avec là aussi pas mal de personnes concernées dans votre famille. Et quels symptômes chez vous lorsqu'une crise se déclenche, Alexis?
Oui, merci, bonjour à Priorité Santé. Mm-hmm. En cas de crise, par exemple, chez moi, depuis l'âge de 6 ans, j'ai 56 ans maintenant,
Il
est difficile de faire d'efforts physiques. Mm. Il est même difficile de parler, quoi. Vous faites l'effort de respirer. Mm. Vous avez l'impression de vous étouffer. Ça fait que vous ne pouvez pas faire d'efforts physiques, même pas de parler. Ça bloque vos activités. Et comme je le disais, notre papa est asthmatique. Nous sommes 4 garçons.
Oui.
Et nous sommes tous asthmatiques. Et c'est moi qui ai la forme la plus sévère.
Alors, une forme sévère, vous prenez un traitement particulier en cas de crise. Et est-ce que vous prenez un autre traitement, on va dire, quand ça va un peu mieux?
Oui, j'utilisais avant Ventoline.
Oui.
Maintenant, je suis Ventoline, ça ne répond plus, ça ne me soulage plus. Maintenant, je suis au Bricanyl aérosol, que j'utilise depuis près de 20 ans. Maintenant, avant de faire toute activité sportive, surtout je fais régulièrement le vélo, je dois prendre l'aérosol à titre préventif. Et comme je voyage beaucoup aussi, j'ai toujours l'aérosol sur moi, puisque je fais beaucoup le terrain. Donc, maintenant, ma question, mon inquiétude, c'est de voir un peu si l'utilisation depuis près de 20 ans de Bricanyl aérosol n'a pas des effets secondaires, par exemple, sur ma santé.
C'est une question très importante. Hein. Tout à l'heure, on avait notre autre auditeur, Brahima, qui s'inquiétait aussi, justement, de ce qu'il appelle une pompe, justement, s'il y avait des risques liés à l'utilisation de ces bronchodilatateurs. J'ai une autre question, Alexis, hein, juste, bien sûr, avant de donner la parole au docteur Adam Bounou pour sa réponse. Vous prenez un autre traitement, des cachets, par exemple, au long cours ou non?
Non, il n'y a que Bricanyl aérosol que j'utilise.
Que l'aérosol. Alors, docteur Adam Bounou, cette question, est-ce que vos patients vous la posent fréquemment sur les risques associés aux aérosols?
Oui, les patients, c'est une inquiétude des patients. Vous savez, le patient togolais en particulier, c'est que ce sont des patients qui n'acceptent pas les maladies chroniques. Alors que lorsqu'on parle de maladies chroniques, on parle de traitements long cours.
Oui.
Déjà, pour répondre au patient, monsieur Alexis, c'est bien ça, hein?
Oui, c'est ça.
Je pense que c'est... Est-ce qu'il a déjà consulté un pneumologue?
Alexis, est-ce que vous avez vu un pneumologue ou un généraliste?
Oui, j'ai un pneumologue qui me suit depuis.
Un pneumologue qui vous suit. Et ce pneumologue, il ne vous a pas donné de traitement au long cours? Que des aérosols?
Non. Oui, d'aérosols, mais merci traitement d'aérosol, puisque le problème, c'est comme je bouge beaucoup, j'ai même compris qu'avoir l'aérosol sur moi me permet d'être à l'abri des crises qui peuvent bloquer mes activités.
Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Adam Bounou?
Alors, parce que ce patient n'a pas de traitement de fond. Mm-hmm. Là, c'est une maladie chronique, et qui dit maladie chronique dit traitement de fond. Et la physiopathologie, c'est-à-dire que l'explication première de l'asthme, c'est l'inflammation. Et donc, il faut lutter au quotidien contre cette inflammation-là, avec essentiellement des corticoïdes inhalés à faible dose. Ce sont des médicaments qui vont aller agir localement au niveau des bronches pour lutter contre l'inflammation. Donc, le recours fréquent déjà à son bronchodilatateur, du coup d'action, renforce mon affirmation selon laquelle il n'a pas un traitement de fond. En tout cas, il n'est pas du tout contrôlé. Donc, il est important qu'il retourne voir son médecin, parce que c'est ça aussi. Lorsque le patient a un médecin qui le suit, la MLAS évolue de façon assez variable au cours du temps et selon les saisons. Donc, il est important qu'il ait un
médecin référent qui puisse lui apporter justement ce suivi régulier. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour vous, Alexis? Retournez voir le pneumologue, retournez en consultation.
Oui, c'est possible.
Et c'est même important, hein, d'après ce qu'a dit le docteur Adam Bounou, vous venez de l'entendre.
Oui, j'ai pris bonne note.
Eh ben, c'est très bien, on vous encourage à le faire. Docteur Adam Bounou, sensibiliser le public, c'est un petit peu ce qu'on fait au quotidien dans cette émission. Mais vous, pour vous, les pneumologues au Togo, la tâche n'est pas facile. Est-ce que vous avez un message à faire passer à ce sujet? Parce qu'on sait aussi qu'il y a le problème de personnel soignant, mais il y a aussi le problème de budget pour les populations. On dit aux auditeurs, prenez un traitement au long cours, mais c'est pas forcément facile de le financer.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est pas facile de le financer. Il y a le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles qui est en train de faire pied et main auprès du gouvernement pour que ces médicaments-là puissent être sponsorisés. Mais il faut dire déjà que on a une partie de la population qui est couverte par l'assurance maladie. Mm-hmm. Cette maladie est reconnue comme étant une infection de longue durée. Donc tous les patients qui ont une assurance sont couverts. Maintenant, l'assurance est en train d'évoluer vers les travailleurs du secteur informel. Parce qu'il faut, c'est la population la plus fragile. Mm-hmm. Donc, il faut bien trouver un moyen pour assurer ces personnes-là afin qu'elles puissent bénéficier du traitement au long cours.
Pour aller vers la couverture santé universelle, un dernier message, justement, peut-être pour encore mieux faire parler, mieux sensibiliser sur cette question de l'asthme?
Oui, je veux dire à la population que le service de pneumologie du CHU Sylvanus Olympio est ouvert, accessible. Nous sommes disposés à recevoir les patients, à leur expliquer leur maladie et à les suivre. Donc, n'hésitez pas à consulter au moins symptômes.
Eh bien,
n'attendez pas que la maladie s'aggrave avant de venir.
Le message est bien passé. Merci beaucoup, docteur Adam Bounou, pneumologue au CHU de Lomé. Merci beaucoup. On retrouve le professeur Housset. Hein. Évidemment, très important, cette sensibilisation. Ça passe aussi par des associations, ça passe par des groupes. Par exemple, la Fondation du Souffle, des initiatives pour informer, des initiatives en termes de recherche. Et ça s'adresse aussi bien aux soignants qu'aux patients.
Absolument, absolument. Et donc, on a mis en place un certain nombre de choses sur le site internet. Et par exemple, le soufflot test est un test qui peut permettre de sensibiliser en fait aux problèmes respiratoires et notamment à l'asthme. On va le décliner cette année pour l'asthme spécifiquement. Donc, j'encourage les auditeurs à aller sur le site de la Fondation du Souffle pour faire ce test qui permet d'identifier des problèmes ou des questions qui peuvent se poser. Un autre point, on a mis en place les rencontres de la Fondation du Souffle, qui sont ce qu'on appelle maintenant des webinaires, donc des séminaires en ligne. Et donc, ce soir, à l'occasion de la journée de l'asthme, j'aurai le plaisir d'animer une rencontre de la Fondation du Souffle avec quatre experts qui viennent de parler de l'asthme et de différents aspects de la maladie asthmatique. Et le dernier point que vous évoquiez, c'est la recherche. C'est une mission extrêmement importante et nous avons financer le développement de plusieurs projets de recherche sur l'asthme, sur les mécanismes de l'asthme, sur l'évaluation des traitements. Et ça, c'est possible grâce à la générosité du public et à la générosité des mécènes qui viennent financer, en fait, les appels d'offres.
Merci beaucoup, professeur Bruno Housset. C'est très important de faire passer le message et on mettra bien sûr les adresses, les liens sur la page Facebook de l'émission, des liens accessibles gratuitement bien sûr, des sites accessibles bien sûr gratuitement du monde entier. On vous remercie chaleureusement pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes donc le président de cette Fondation du Souffle, également professeur émérite à la Faculté de médecine de Créteil en région parisienne.
Priorité santé sur RFI.
Autre sujet au cœur de l'actualité renforcée, les campagnes de vaccination contre les grandes maladies, toutes les maladies, sauver 50 millions de vies d'ici 2030. C'est un objectif fixé par l'OMS et ses partenaires et sur le terrain, l'action des ONG confrontées aux flambées épidémiques, comme c'est le cas, on en parle notamment dans les journaux de RFI, comme c'est le cas depuis le début de cette année en République démocratique du Congo. Pour en parler, on est en ligne avec Birgit Nicolai. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste à Épicentre, la branche de Médecins sans frontières dédiée à l'épidémiologie et la recherche. Birgit Nicolai, donc cette épidémie qui nous intéresse, flambée de rougeole en RDC. Est-ce que vous avez aujourd'hui des chiffres qui peuvent nous éclairer sur l'étendue de cette épidémie ?
Oui, alors depuis le début de l'année, on a déjà observé plus que 17 000 cas en RDC avec plus de 200 décès. Et là, pour l'instant, depuis le début de l'année, il y avait 30 centres de santé dans le pays qui ont été déclarés en épidémie d'un total de 500 centres de santé. Et peut-être juste pour expliquer, on est dans un contexte où on vient de voir déjà une grande épidémie en 2018-2020 qui a été déclarée, la fin de l'épidémie a été déclarée cet été en août et là il y a des flambées qui ont recommencé.
Quelques mois après l'arrêt de la première épidémie, retour de la flambée, justement est-ce que certaines régions ou provinces, on parle bien sûr des provinces congolaises, sont particulièrement concernées par cette flambée de rougeole ?
Oui, alors depuis le début de l'année, on a observé quelques provinces dans le nord, quelques centres de santé dans le nord qui ont été plus touchés. Là, jusqu'à là, il y avait le ministère de santé en RDC, l'OMS, d'autres partenaires et aussi, bien sûr, Médecins sans frontières qui ont lancé des ripostes à cette épidémie. Alors pour l'instant, ces régions, on observe une baisse des cas, mais il y a des autres régions où quelques centres de santé sont en alerte, où il y a une augmentation des cas. Du coup, on doit suivre de près l'évolution et être en alerte et pouvoir répondre rapidement s'il y a cette augmentation observée dans les autres régions.
Est-ce qu'on a des moyens de savoir si finalement la pandémie de Covid a un effet sur ces flambées, sur cette résurgence de cette maladie, il faut le souligner, qui est extrêmement contagieuse? La rougeole, on dit même que c'est la maladie la plus contagieuse.
Oui, exactement. Pour l'instant, on n'a pas de chiffres concrets. Qu'est-ce que ça veut dire pour le nombre de cas de rougeole? Mais il y avait quand même des enquêtes qui ont été faites dans les communautés pour voir l'effet de l'épidémie aux recherches de soins de la population. Mm-hmm. Comme il y avait quand même des peurs des populations de se aller dans une centre de traitement parce que peut-être ils pourraient s'infecter avec le Covid là-bas. Sûrement, il y avait des gens qui sont restés loin des centres de traitement, qui sont restés malades dans les populations. Aussi, on observe qu'avec la vaccination Covid, parfois les gens ont peur de se faire vacciner. Ils pensent à la vaccination rougeole, ça peut être aussi la vaccination Covid. Alors il y a des confusions comme ça, mais on n'a pas encore des chiffres concrets pour cet impact.
Une maladie qui impacte en particulier les enfants. Alors, bien sûr, une organisation comme la vôtre propose aussi bien des campagnes de vaccination que la prise en charge, le soin. Du côté de la santé des enfants qui contractent la rougeole, quel type de complications est-ce que vous observez? Quel type de complications est-ce que vous prenez en charge?
Oui, alors... On observe des complications oculaires, respiratoires, alors les sous-infections avec des pneumonies, des complications digestives, neurologiques qui sont prises en charge par MSF. Bien sûr, il y a aussi un impact sur le système immunitaire. Alors les enfants qui ont eu la rougeole, après, quand la maladie est passée, ils peuvent être plus susceptibles aussi pour des autres maladies graves qui circulent dans le pays.
Des maladies graves et puis aussi un état propre aussi à la situation financière, économique et sociale de ces territoires, parce qu'il faut aussi compter avec les questions de malnutrition.
Exactement. Alors la malnutrition, bah déjà c'est un problème dans quelques régions dans les pays. Et en plus, on observe aussi que après les gens ont été malades avec la rougeole. En plus, ça peut créer des malnutritions chez les enfants.
Et du côté, justement, vous disiez MSF impliqué dans les campagnes de vaccination. Attention à ne pas faire l'amalgame entre la vaccination anti-Covid et celle pour la rougeole. Quel accueil est réservé à vos équipes de vaccinateurs? Et justement, comment améliorer cet accueil pour que les parents, les mamans amènent les enfants au centre pour qu'ils se fassent vacciner? C'est absolument indispensable.
Alors généralement, les équipes de vaccination sont bien accueillies. Alors avec les arrivées MSF aussi, souvent ça vient avec un accès aux soins gratuits. Alors généralement, on est bien accueillis. Mais bien sûr, il y a des croyances qui peuvent résister à un refus de vaccination. Mais il faut aussi réfléchir. Il y a beaucoup de problèmes d'accès. Alors on est dans un territoire extrêmement compliqué. Par exemple, pendant la saison de pluie ou quelques rues sont difficiles à utiliser. Alors, ce n'est pas qu'une question d'acceptabilité, mais aussi d'accès. Et du coup, dans les campagnes de vaccination, ce qui est vraiment important de pouvoir identifier ces parties de population qui sont difficiles à accéder. Alors déjà, ils ne sont pas accès
aux... Et il nous faut conclure, donc on a bien compris mettre l'accent sur l'accès aux soins, l'accès à la vaccination. Merci beaucoup, Birgit Nicolai, pour ces explications. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. Demain, on va parler des aidants, pères aidants, médiation des patients en santé mentale. Comment l'expérience, le parcours devient un support de soins. On se dit à demain.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sounou Assurance en Guinée. Sounou Assurance Vie Guinée qui vous protège ainsi que vos proches et Sounou Assurance IARD Guinée qui préserve vos biens. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. 7 minutes.